Bonsoir. Situation sécuritaire dans l'ex-province orientale. La semaine dernière, dans la province du Haut-Ouélé, 25 personnes ont été kidnappées par les présumés rebelles LRA. 15 parmi elles ont été relâchées et un agent de la DGM tué. En Ituri, les miliciens de la FRPI ont multiplié les exactions au sud d'Irumu. Il s'agit notamment d'enlèvements, de tueries et de pillages. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Guillaume Léou. Bonsoir, monsieur Léou.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Ordre Public, également ministre de la Justice et Droits Humains, Information et Médias et porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Ouélé. Jean-Claude Huguengo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordonnateur territorial de la société civile d'Ango, province du Bas-Ouélé. Professeur Boniface Moussambi Kabissa, bonsoir. Voilà, on me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est criminologue. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Dans la province du Haut-Ouélé, 25 personnes ont été kidnappées. Parmi elles, 15 ont été relâchées et un agent de la DGM tué. C'était la semaine dernière dans le territoire de Dungu au cours d'une attaque perpétrée par des présumés rebelles de la LRA. Selon les directeurs de la commission diocésaine justice et paix de Dungu-Doruma, l'attaque a eu lieu sur l'axe routier Dungu-Bangadi. L'abbé Jean-Pierre Bagoudekia est joint au téléphone par André Kitenge.
Dernier, plus ou moins 25 personnes ont été kidnappées, 15 sont libérées seulement, des adultes parmi lesquels on trouve le chef du groupement Napoudou qui a été libéré grâce à l'intervention des jeunes gens. Par ailleurs, on déplore la mort d'un agent de DGM à Batanabou et d'autres personnes. En tout cas, pour l'instant, la situation est volatile à Bangadi. La population civile vit dans la psychose d'une probable attaque. C'est ainsi que nous lançons un vibrant appel à nos forces de sécurité et à la MONUSCO de prendre ce dossier au grand sérieux pour éviter toute attaque de grande envergure parce que la localité de Bangadi a été souvent l'objet des attaques qui n'ont jamais reçu à la LRA.
En Ituri, les miliciens de la FRPI ont multiplié les exactions au sud d'Irumu depuis le lancement il y a environ 2 semaines des opérations conjointes FARDC MONUSCO dans la zone. Il s'agit notamment d'enlèvements, des tueries et de pillages. Le dernier cas remonte à dimanche avec l'enlèvement du chargé de renseignement de bataillon des FARDC à Bukiringi. Il a été kidnappé et conduit dans la brousse avant d'être relâché un jour après, soit le lundi. Isaac Remoï Yopé nous en dit plus.
Ce militaire dont le grade n'a pas été révélé revenait dimanche sur une moto de Boga. Il est tombé dans une embuscade tendue par des miliciens qui l'ont acheminé en brousse après avoir blessé à coups de machette son conducteur. Cette nouvelle a semé la panique dans les milieux. Selon un notable de cette entité, la population de Bukiringi craignait de faire l'objet d'intimidation des arrestations par les FARDC qui la soupçonnerait d'être à connivence avec les miliciens. C'est après des tractations de certains notables avec les leaders de cette milice que ce militaire a été libéré. D'autres exactions de ces groupes armés ont été enregistrés dans plusieurs autres localités, aussi de Dirumu. Il s'agit des meurtres dimanche des 2 habitants Kaliabugongo à la plaine du lac Albert. 7 creusers d'or ont été kidnappés dans une carrière à la rivière des Talolo en chefferie des Andisoma. Ils ont été relâchés après la traque des FARDC. Plus de 50 maisons ont été également pillées par ces assassins au village de Kamatsimudogo dans la chefferie de Walendubindi. Les porte-parole des FARDC à Ituri indiquent que ces miliciens sont à débandade suite aux opérations militaires qui se déroulent dans la zone. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Merci Isaac Remoyope, Guillaume Léou Makombi. Quelle est la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans la province du Haut-Ouélé où vous vous trouvez?
Écoutez, en province du Haut-Ouélé, il y a un certain nombre de faits perturbateurs de la situation sécuritaire parmi lesquels on peut mentionner...
Monsieur Léou?
Un activiste.
Monsieur Léou.
Oui.
S'il vous plaît, veuillez éteindre la radio qui est à vos côtés. Vous pouvez suivre l'émission à partir de votre téléphone.
Tout à fait. Merci beaucoup, c'est fait.
Je vous en prie, vous pouvez poursuivre.
La situation sécuritaire en province de Tuélé, et notamment dans la partie nord-est de la province, est marquée ces derniers jours par une recrudescence ou un activisme exceptionnel des forces résiduelles de la RRA, comme vous l'avez mentionné au début. Mais les RRA ne constituent pas la seule menace sur la situation sécuritaire de notre province. À côté de l'ERA, nous avons les Loro, dont l'expansion devient inquiétante. Vous êtes en savoir qu'au Sud-Soudan, il se déroule une guerre, un conflit armé, et qui a une conséquence directe sur notre province, le Haut-Uele, et puis des ex-rebelles. Et puis enfin, il y a les braconniers internationaux. Donc, c'est un peu ça les tableaux. Des efforts sont en train d'être déployés par le gouvernement provincial, mais aussi par le gouvernement central pour cette opération de faire des faits. C'est ainsi que parfois nous arrivons à endiguer toutes ces situations-là.
Alors,
voilà en bref.
Donc, si je vous comprends, cette recrudescence est notamment liée à la situation au Soudan du Sud et, j'allais dire, dans la région de l'Afrique centrale.
Mais tout à fait. Écoutez, la plupart des situations que nous connaissons dans notre pays est due à comme origine les pays limitrophes. Et les RA, c'est un mouvement rebelle ougandais. Il faut bien noter ça. En débandade, ils sont répliés sur notre territoire national par l'Ituri et les Haut-Uele. Aujourd'hui, ils sont, disons, en Centrafrique et font que parfois les acquaintances avec les Mbororo, par exemple, font de cette partie-là un triangle de la mort. Donc, nous concentrons nos efforts sur cette du triangle de la mort. La zone comprise entre la Centrafrique, le Sud-Soudan et la RDC.
Alors, selon le commandement américain en Afrique, AFRICOM, la rébellion ougandaise de la LRA ne compterait plus qu'une centaine de membres actifs. Guillaume Léou, selon vous, pourquoi on ne parvient pas à éradiquer complètement cette poche résiduelle de LRA? Et pourtant, il y a un moment, il y avait même une force conjointe entre différents pays. Pourquoi ça elle résiste?
Écoutez, il y a une recrudescence qui est due à plusieurs raisons. Mais l'une des raisons, que moi je connaissais comme la raison la plus principale, c'est le fait que à l'élection du président Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, les forces de AFRICOM ont décroché. Et donc il y a eu cette tentative de quelques éléments restants de LRA de récupérer les postes qui étaient occupés jadis par AFRICOM. Pour continuer à maintenir créer de l'insécurité, qui en fait est dû au fait que ces gens sont à la recherche de moyens de survie. Le fait qu'aujourd'hui les FARDC, notamment les secteurs opérationnels de l'Ouélé, est en train de mener un combat contre ces gens, ils essaient de commettre des actes d'intimidation sur la population pour créer la terreur, des enlèvements, des assassinats, des viols, des choses comme ça.
Voilà,
à peu près les raisons.
Merci. Jean-Claude Hugues Ngbo, vous êtes coordonnateur de la société territoriale de la société civile d'Ango, province du Bas-Uélé. Vous aussi, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans le Bas-Uélé? Où vous vous trouvez?
Oui, merci beaucoup. La situation sécuritaire dans le Bas-Uélé où je me trouve est dramatique et même inacceptable. Pourquoi je le dis? Nous sommes en train de subir les violences de toutes parts. Premièrement, il y a les éléments de la RRA qu'on appelle résiduels, ce terme que je réfute avec force, les Mbororo armés et aussi les braconniers internationaux qui sont en train de s'émet la panique dans la population du Bas-Uélé. Et RRA est active et aussi, je vous rappelle que le 22 juillet, dans le village Samungu, un nombre très important et numériquement important avec des armes lourdes. On dit même avec des lance-roquettes, avec des MAG, avec des AK-47 et aussi avec des armes blanches. On fait incursion dans la localité de Samourou, qui n'a pas vu des personnes qu'ils ont libérées après à deux vagues. Voilà, cette situation nous met mal à l'aise et nous ne savons pas comment la population peut vaquer librement à ses occupations. Vraiment, la situation est dramatique, vu les conséquences à vie humaine et à perte même de vie humaine. Et comme je le disais tantôt, le 22 là, un militaire a été tué et le 18 juillet, deux militaires ont été abattus aussi par ces éléments de la RRA.
Alors, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous parliez des éléments résiduels de la LRA, mais vous avez dit que vous réfutez le terme résiduel. Pourquoi ?
Guy Maté, vous comprendrez avec moi que ces éléments sont supérieurement armés, lourdement armés, et ce ne sont pas des hommes, mais on peut dire résiduels. Ils sont là permanents, dans tous les coins du territoire d'Ango, on les voit en train de sillonner, ils sont en train de faire des incursions ça et là, avec une acuité grave.
Alors, est-ce que vous pensez que, parce que ces LRA sont lourdement armés, comme vous le dites, vous pensez que la RDC constitue actuellement leur base arrière?
Guy Maté, je vous dirais, pour le moment, on peut oser croire que vraiment c'est leur base arrière, parce que vu la situation qui se passe à Centrafrique, où la situation est très délicate, où les groupes armés sont ça et là et s'attaquent même, l'autodéfense s'attaque même à ces éléments de la RRA, et vous comprendrez avec moi que les reprises seraient seulement du côté de la RDC, où ils peuvent sillonner entre les 600 kilomètres de la province de Bazouélé, de Bondo jusqu'à la frontière avec Dungu, là où ils peuvent sillonner dans cette forêt-là librement et faire des incursions dans les villages où ils peuvent tout faire de leur propre chef.
Merci. Juste signaler que c'est Alain Rong qui a la présentation de cette émission. Guillaume Léou, je reviens à vous. Vous avez suivi Jean-Claude Huguembo parler de ces frontières où les LRA passent et repassent, les Mbororo, n'en parlons pas. Vous êtes ministre provincial. Pouvons-nous dire que ces frontières entre la RDC, le Sud-Soudan et la République centrafricaine ne sont pas surveillées, sont totalement poreuses? Guillaume Léou.
Il existe selon une frontière les forces de défense de ce pays. Il faut savoir d'abord que le problème qui est posé ici est un problème qui dépasse le niveau de compétence de la province. C'est un problème qui relève de la compétence du gouvernement central. Le notamment le territoire d'Ango, pratiquement aujourd'hui considéré comme le point d'entrée à la fois de LRA et les éleveurs nomades de Mbororo. Alors, j'ai entendu mon ami parler de réfuter les termes forces résiduelles. Il est établi aujourd'hui, selon les rapports que les services nous font, que les effectifs estimés aujourd'hui des LRA ne dépassent pas les 500. Donc, de ce point de vue, on ne peut que parler de forces résiduelles. Et puis, encore que parmi les 500, sont aujourd'hui ont été recrutés sur notre territoire du Congolais, à qui on a fait suivre les entraînements, qui sont aujourd'hui, qui bien sûr venus gonfler les rangs de ces LRA. Donc, j'ai dit tantôt qu'il y avait une action à la fois conjointe de nos forces, notamment le secteur opérationnel de l'ULE, qui est basé à Dungu et commandé par le général Bonané, et des forces de nos partenaires de la MONUSCO. Les efforts sont en cours, ils se sentent traqués. C'est pourquoi vous constatez ici et là qu'ils se commettent des faits qui sont répréhensibles. Donc, dire que les frontières sont poreuses, je ne l'admets pas tout à fait.
Alors, Guillaume Léou, qu'en est-il des groupes armés locaux? Vous avez suivi tout à l'heure au sud d'Irumu, en Ituri, là, il y a les FRPI qui font la loi. Et dans le haut où elle est, est-ce que vous avez affaire à des milices locales?
Écoutez, la situation en Ituri, il me sera difficile d'en parler avec beaucoup de détails. Mais je sais que aujourd'hui, à côté des éleveurs nomades Mbororo et de l'ERA, les bandits armés, vous devez savoir que la région ici est une région essentiellement minière. Il y a à côté des exploitants miniers industriels, il y a des artisanaux. Et donc, des Congolais mal intentionnés se positionnent sur les activités pour couper la route et extorquer des colis aux paisibles passants. Dans ce que nous appelons les bandits armés, c'est un phénomène qui se développe et contre lequel, au niveau provincial, nous essayons de prendre des mesures pour y mettre fin. Hein? Donc, ces bandits, oui, ce sont des citoyens congolais, des œuvrés, des jeunes gens, qui parfois se retrouvent dans les carrières d'exploitation et se vendent de l'or, et qui surveillent le mouvement de ceux qui arrivent ou ceux qui sortent, et qui se fait répréhensible. Donc, chaque jour qui passe, nous essayons de tenir des réunions avec les forces de sécurité et des maîtres de l'ordre pour que nous puissions vraiment mettre fin à cette histoire de coupeurs de route.
Jean-Claude Hugues Ngbo, vous venez de suivre le ministre provincial Guillaume Léou qui a parlé des efforts en cours fournis par la MONUSCO et le gouvernement provincial pour mettre fin à cette insécurité, mais visiblement ça ne porte pas beaucoup d'efforts, de fruits plutôt.
Oui, Guimaté, la ligne est un peu compliquée, mais si je vous suis, l'effort, on ne peut pas méconnaître l'effort de la MONUSCO et de nos FARDC pour mettre fin à cette situation. Je pense, si je peux rappeler, l'AFRICOM qui a été en action ici. On me posera la question, ou je poserai la question à cette force-là, combien d'éléments RA ont été arrêtés et par cette force-là qui a sillonné partout et dans le territoire de Ango a impressionné même la population parce qu'ils ont atterri ici à Ango dans une localité qu'on appelle Namutundu et une vingtaine d'hommes, ils ont marché à pied traversant les villages. Mais ils ont réduit combien d'éléments de la RRA, nos FARDC, qui sont en train de faire un travail louable. Ils se battent contre des hommes supérieurement armés, avec des lance-roquettes, des PKM, mais ils n'ont que des AK-47 pour faire face devant un ennemi lourdement armé. C'est vraiment un problème. Toutefois, nous saluons leur effort et surtout le premier bataillon de 3205e régiment du secteur opérationnel de Dungu qui est basé à Ango, qui est en train de faire un travail louable et je dis paix aux âmes de certains FARDC qui sont tombés au front et particulièrement ceux qui sont tombés à Samungu les 21 de ce mois. Il y a un effort, mais il y a cette volonté, mais il faut aller plus jusqu'à matérialiser cette volonté, adopter la FARDC avec une logistique conséquente, avec des armements appropriés, alors pour lutter efficacement contre ces hommes.
Jean-Claude Hugues Ngbo, dans la province de l'Ituri, les notables de la chefferie de Walendubindi ont par exemple demandé, se sont opposés aux opérations militaires menées contre les miliciens de la FRPI, en affirmant que ces opérations pourraient risquer d'entraver le processus du dialogue engagé avec ce groupe armé. Est-ce que vous êtes de cet avis qu'on devrait négocier avec les groupes armés, qu'ils soient locaux ou étrangers, pour pacifier le territoire? Jean-Claude Hugues-Ngbo.
Oui, allô?
Allô, vous m'avez suivi?
Non. Vous pouvez revenir à bref.
Voilà, je reviens à vous tout à l'heure. Le professeur Boniface Kabisa Moussambi a fait son entrée dans ce studio. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous êtes criminologue, professeur. Les LRA, Mbororo, FRPI font la loi dans l'ex-province orientale. Professeur, comment vous analysez cette situation?
Bon, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Mais je crois que la situation de notre pays rappelle la situation à l'époque où il n'y avait pas d'État dans notre pays. La restructuration de l'État congolais par des structures actuelles n'a pas très bien fonctionné. Lorsqu'il y a des Mbororo et des consorts, il y a d'abord l'absence de l'organisation du fonctionnement de l'État dans les zones où on trouve ce genre de non-droits. On dit que la nature a horreur du vide. Et donc, notre pays étant un petit continent, moi je pense très sincèrement que nous devrions revoir notre propre fonctionnement avant de nous plaindre sur des incursions que les autres font en profitant de notre propre désorganisation.
Revoir le fonctionnement de l'État, professeur, cela commencerait par quoi?
Cela commencerait par créer d'abord ce qu'on appelle la légitimité. Vous savez que l'État fonctionne sur base de légitimité. Et il y a une différence entre la force, le pouvoir et l'autorité. La force relève du physique. Nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons nos services de renseignement. Ça, c'est la force. Mais la légitimité, c'est psychologique. C'est le rapport que la citoyenneté, que les Congolais ont vis-à-vis des acteurs de l'action publique. Et ça, personne ne peut me contredire. Cette relation est décédée. Et donc, il faut commencer par là. Réhabiliter cette relation qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont contents de voir les emblèmes de l'État malmenés. Vous savez, dans chacune de nos familles, on a les agents de police, les agents de l'armée, des services. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais détestent ces services-là? C'est parce que leur représentativité psychologique n'est pas acceptée dans la population. Et les gens qui sont dehors, qui ne guettent que notre pays pour s'installer, ces gens-là en profitent pour venir semer des troubles.
Professeur, la RDC est une nation aux dimensions continentales, vous l'avez dit. Il y a des populations qui se sentent pratiquement abandonnées. Serait-ce pour cela que ces populations sont frustrées? Par exemple, elles pensent être loin de Kinshasa, mais la décentralisation est venue résoudre ce problème.
Non, la décentralisation a été une catastrophe. Je vous l'ai dit et je l'assume. Ça a été une catastrophe. Vous savez que en 2006, j'ai été parmi ceux qui ont refusé de voter oui pour l'actuelle constitution. Et je n'ai pas changé mon avis jusqu'à ce jour. Je la respecte parce que la majorité s'est apportée à voter cette constitution. Il y a là-dedans des zones qui ont fait que nous puissions nous affaiblir par rapport aux structures de l'État dans l'ancien temps. Eh bien, vous devez savoir que la décentralisation s'est faite dans la précipitation alors que nous avions tout le temps. Le problème chez nous, c'est quoi? C'est que les gens voudraient faire des choses par rapport à notre temps. Ils ne font pas les choses par rapport à l'éternité de notre pays. Et donc, on veut avoir rapidement et tout de suite les résultats de nos actions. Or, il y a dans l'État, d'abord, excusez-moi de faire la parenthèse, il y a l'État et le pouvoir. Alors, l'État, ce sont des structures figées, des structures éternelles. L'État, c'est l'ensemble des instruments qui sont dans un territoire bien déterminé et tel que quand on les possède, on conduit les gens là où on veut. En tout cas, c'est la définition, excusez-moi, que j'avais donnée dans mon mémoire. Et donc, à partir du moment où l'État a été mal défini par nos propres dirigeants, eh bien aujourd'hui, nous sommes en train de cueillir les pots cassés.
Merci, Monsieur le ministre Léo Makombi. Nous allons prendre pour vous cette réflexion qui nous vient d'Isiro.
Honorable Paul Odiane Aïssio, la province du Haut-Uele est complètement envahie par les éleveurs Bororo et LRA. Ces éleveurs ont pratiquement envahi la quasi-totalité de la province du Haut-Uele. Ils sont partout, les champs de la population, les eaux sont complètement dévastées par ces éleveurs Bororo. Et les LRA également sont partout. Ils attaquent et pillent la population sans que les services de sécurité ne puissent mettre fin définitivement à ces envahissements. Nous constatons avec amertume que notre population est abandonnée en elle-même. Et cette population considère cette situation comme étant une façon de balkaniser la province du Haut-Uele et de déstabiliser ses institutions.
Guillaume Léou, est-ce que vous partagez ce sentiment d'abandon, notamment de la population de la province du Haut-Uele?
Écoutez, vous avez parlé avec le professeur tout à l'heure de l'échec de la décentralisation. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. La décentralisation vient justement résoudre cette fameuse question du sentiment d'abandon ressenti par nos populations. Alors, s'agissant de la question posée par l'honorable Paul Diané, je voudrais rappeler ici que la présence des éleveurs Bororo est à la base de beaucoup de choses, a des conséquences néfastes à plusieurs titres, sur le plan sécuritaire, parce qu'il est établi aujourd'hui que certains parmi eux détiennent par des armes de guerre, qui ont été dans notre pays, sur le plan de développement, les réserves de chasse sont envahies, ce sont des problèmes réels, le tableau est sombre, mais nous ne devons pas de nous croiser les bras. C'est des questions, comme je l'ai dit au début de l'émission, qui dépassent le niveau de compétence de la province. C'est un problème qui est devenu même un problème international parce que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, plusieurs fois dans ces réunions, a publié des communiqués. Et donc, pour le résoudre, il faut une approche régionale concertée. Alors, devant ce problème qui se pose, hein, je ne suis pas en train tout à fait de défendre la présence des éleveurs Mororo. Si les deux premières vagues des éleveurs, je vais faire un bref aperçu historique, les Mororo sont allés à la troisième vague. Ils sont arrivés aux frontières de notre pays, toujours par Ango, dans le Bazuélé, en 1940 déjà, à l'époque coloniale. Ils ont été sévèrement réprimés par l'autorité coloniale. Ils sont revenus dans les années 80, à l'époque de la Deuxième République. Ils ont été sévèrement réprimés par les forces armées aïroises de l'époque. Aujourd'hui, c'est la troisième vague. Et les choses ont beaucoup évolué. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui utiliser la répression pour les faire partir.
Est-ce qu'il faut négocier avec les Mbororo, Guillaume Léo? Est-ce qu'il faut négocier avec les Mbororo?
On ne négocie pas avec les personnes qui sont entrées dans notre pays de manière irrégulière.
Merci.
Dont les statuts n'est pas connu. On ne négocie pas avec eux.
Merci. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Jean-Claude Huguenbo, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Lissala.
Maître Toto Albert Tambola depuis Lissala. La situation sécuritaire dans les différents coins du pays se dégrade chaque jour davantage. Et cette dégradation de la situation sécuritaire nous étonne considérablement dans la mesure où la sécurité des personnes et de leurs biens et la défense de l'intégrité territoriale font partie des missions régaliennes de l'État. Et la police et les éléments de FARDC qui sont censés assurer ces missions sont dans tous les coins du pays. Pourquoi les services attitrés ne prennent pas des mesures préventives solides pouvant mettre durablement un terme à ces multiples cas d'exaction, pillage, tuerie et kidnapping? En bref, il n'y a pas d'analyse à faire face à cette situation, si ce n'est qu'à dire le pays va mal.
Le pays va mal, Jean-Claude Huguenbo, mais que fait la société civile, notamment celle du Bazuélé, dans le cadre de la sensibilisation, par exemple, pour que ses propres fils n'intègrent pas les groupes armés?
Oui, merci beaucoup. Je salue mon frère qui intervient de Lissala.
Jean-Claude Huguenbo, s'il vous plaît, veuillez éteindre aussi la radio qui est à vos côtés ou vous en éloignez.
Oui, je disais, Guy Maté, c'est fait. Vraiment, notre État est malade et nous, comme société civile du territoire d'Ango, on est en train de sensibiliser et jour et nuit nos frères et sœurs de ne pas faire partie de ces groupes de la RRA ou de braconniers internationaux. Mais ce sont des frères qui sont faits des forces parties de la RRA. Parce que quelqu'un qu'on a arrêté depuis 2009 que la RRA est arrivée dans notre territoire à partir de Banda, celui-là continue à travailler. Il a été psychologiquement déjà travaillé et il est contraint d'obéir à ces chefs-là, RRA, de l'Ouganda qui les ont pris. Et en dehors de nos sensibilisations, tout ce qui se passe, tout ce que nous enregistrons comme incursion de la RRA ou incident sécuritaire, nous les partageons avec les autorités politico-administratives du milieu, avec le commandant bataillon de la FARDC basé à Ango, pour qu'ils prennent des résolutions ou qu'ils prennent des dispositions. Mais ils prennent des dispositions. Nous louons ces dispositions, mais quels sont les moyens qui sont à leur disposition pour qu'ils puissent vraiment agir efficacement? C'est là le problème. La sensibilisation est en train de se faire. Et vous voyez, même, on va dire, même les Mboro qui sont armés, on doit les recenser, on doit percevoir des taxes sur eux. alors qu'ils sont armés, mais on ne pense pas à les désarmer à la frontière par où ils viennent dans notre pays. Oh, ils ne sont, les frontières ne sont pas contrôlées. Il y a un mois maintenant que ces éleveurs Mbororo viennent en masse du côté des Zapaï à partir des Zemio. Mais ils sont nombreux. Ils ne sont pas contrôlés à la frontière. Ils entrent avec les armes. Quel éleveur on va inventer des termes Merci. Pour dire qu'ils sont des climatiques, des réfugiés climatiques? Mais un réfugié climatique qui est armé,
Merci.
Qui doit tirer à bout portant sur les gens. Qui
Merci Jean-Claude Hugo. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur Boniface Kabisaya. Pour vous, cette réaction qui nous vient de Boutembo.
Josué Kakule Moseke depuis Boutembo. Alors que les opérations de traque se succèdent sur terrain au constat de la multiplicité des groupes armés, il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité de ces opérations. Et les FARDC et la MONUSCO, toutes n'ont pas permis de mettre fin à ces phénomènes. Et si l'option militaire n'épargnait pas jusque-là à mater ces mouvements, pourquoi ne pas mettre sur pied l'approche des négociations? À tout état de cause, cette insécurité n'a fait que perdurer. Il est temps d'y trouver une solution rapide et durable.
Professeur Boniface Kabisa, faudrait-il négocier avec toutes ces forces négatives? Parce que visiblement, le gouvernement congolais et ses partenaires sont à bout de souffle, comme le soutiennent plusieurs auditeurs ici.
Je voudrais que vous gardiez dans votre mémoire ce que je vais dire tantôt. Puisque, criminologue, vous l'avez dit, je pressens des phénomènes sociaux que je peux dire avec certitude en additionnant deux phénomènes pour dire quel sera le troisième. Je peux vous dire sans me tromper que ce n'est que le début. Tant qu'il y a la déstructuration de l'État chez nous et que ailleurs il y a la désertification, il y a l'absence de l'eau, il y a des problèmes d'existence, et que nous avons un territoire accueillant, mais nous sommes totalement désorganisés, eh bien, nous serons envahis par tous ces phénomènes. Je vous dis que ce n'est que le début. Il y aura une partie des populations de notre pays qui seront pourchassées au détriment de leurs intérêts pour descendre vers le centre. Et les nouveaux venus vont occuper l'espace. Parce que ils viennent de vous dire qu'il n'y a aucun système de contrôle. L'État, on pense par ceux qui gouvernent, moi y compris, que l'État, c'est Kinshasa. C'est Kisangani, c'est Lubumbashi, c'est... On est à 10, 20 agents de renseignement sur un individu, alors que le vrai renseignement qui doivent sauver l'État sont ceux-là. Où on doit savoir qu'est-ce qui se passe à l'est, à l'ouest, quelles sont les prévisions pour le futur, quels sont les moyens de défense. On ne le fait pas. Et ceux qui osent penser sont marginalisés. Je veux vous dire, de garder ce que je vous dis en mémoire, que ce n'est que le début, il y aura tout un espace de la République démocratique du Congo, occupée par les gens d'autres nations qui vont venir chez nous. Et qu'est-ce qui va se passer? Exactement comme ça s'est passé au Kosovo, à Srebrenica. Et les Serbes ont laissé entrer comme ça, anarchiquement, les Bosniaques. Et puis, par après, ils se sont rendus compte trop tard qu'on a occupé leur espace vital.
Conséquence, la balkanisation.
Eh bien, dès que ils ont cherché à les pourchasser par la force, c'était trop tard.
Et professeur, ici et maintenant, la solution immédiate, c'est quoi? Peut-on restructurer, avons-nous le temps, ici et maintenant, de restructurer l'État congolais comme vous le soutenez?
Je vous ai parlé de la différence qu'il y a entre l'État et le pouvoir. Le pouvoir est branlant. Le pouvoir est mortel. Le pouvoir est, comment allais-je dire, aléatoire. Mais l'État, il est éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? On a confondu l'État et le pouvoir.
Et qu'est-ce qu'il faut faire, professeur?
Mais c'est ce que je vous dis. Laissez l'État fonctionner comme État. Et le pouvoir comme le pouvoir. L'État, c'est quoi? C'est la police, c'est l'armée, c'est le service des renseignements, c'est la justice. Lorsque, attendez, ne craignez pas la balkanisation, ne croyez pas que les Mbororo, je vais rassurer à mes compatriotes qui souffrent sans doute, les Mbororo ne viendront pas prendre notre pays. Celui qui va nous détruire, c'est le fait pour nous-mêmes d'avoir détruit la justice et l'enseignement.
Merci professeur, je reviens à vous tout à l'heure, il va déjà falloir pratiquement conclure. Guillaume Léou, pour vous, la solution efficace passe par quoi?
Écoutez, moi je ne suis pas comme les autres qui m'ont précédé à ce micro, agiter le spectre de la balkanisation de notre cher pays. Moi je n'y crois pas beaucoup. Laissez-moi vous dire que toutes ces questions très préoccupantes se trouve sur la table d'autorité tant nationale que provinciale. Au niveau national, par exemple, pour pallier à cette fameuse question de faiblesse des objectifs, il y a un déploiement le long de nos frontières et nous devons croire que ces déploiements vont permettre de réduire l'ampleur du phénomène et de d'y mettre un terme.
Mais Guillaume Léou,
provincial, s'il vous plaît. Et les autorités tant de la province du Bas-Uele que la province sœur et voisine et celle du Bas-Uele ont mis en place des commissions pour étudier la question sur tous ces aspects avec des partenaires multilatéraux. Alors, donc nous sommes en train de nous y employer. Je crois que la théorie développée par les professeurs aujourd'hui tient, c'est-à-dire que il faut de la légitimité, mais je voudrais rappeler ici que la légitimité, c'est uniquement à travers les élections.
Merci. Jean-Claude Ugungbo, en guise de conclusion, pour vous, c'est quoi la solution?
Oui, merci beaucoup. La solution, c'est une solution concertée et une synergie et vraiment, l'État doit prendre sa responsabilité. Prendre sa responsabilité revient à dire que nous sécuriser la population, signifie doter l'armée d'effectifs, d'armement et de matériel adéquat et rétablir les services étatiques, surtout dans nos frontières. Une frontière de Bas-Uele qui est de 600 km. Et sans service étatique attitré, vraiment, ça nous fait du mal. Si nous pouvons aussi aller aux élections, arriver à voter certaines institutions, nous verrons si ces institutions-là ne feront pas quelque chose.
Merci. Professeur Kabisa Moussambi, conclusion.
Ma conclusion est simple, réformons l'État et nous allons être sauvés. Sinon, nous serons broyés par les autres.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Merci à Héritier Sidiakala, Guy Maté, Kéline Kouteberi, Franklin Luchaka qui m'ont aidé à préparer et présenter cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Présentation et coordination, Alain Rung Mouchige. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Au revoir.